écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale et aujourd'hui plus particulièrement de l'économie française. Cela n'a pas pu vous échapper, la France est à 2 semaines du premier tour de son élection présidentielle. Marine Le Pen fait de l'Europe le grand responsable de tous les maux qui accablent la France.
Si je suis élue présidente de la République, va s'ouvrir enfin le débat sur l'euro, le bilan de l'euro, les méfaits de l'euro, parce que les peuples, ils sont conscients des méfaits de l'euro.
Emmanuel Macron veut lui supprimer 120 000 emplois publics et lancer un plan d'investissement de 50 milliards d'euros pour créer un nouveau modèle de croissance, mais pour lui, au contraire de Marine Le Pen, l'Europe est incontournable.
Si on veut réussir sur le plan industriel, face aux grands aciéristes chinois, indiens, russes, on a besoin de l'Europe et d'une politique commerciale solide. Nous sommes un marché de 60 millions d'habitants contre plus d'un milliard. Par contre, l'Europe, c'est plus de 500 millions d'habitants, ça pèse.
Pour lutter contre le chômage, pour enrayer le déficit extérieur, pour réduire le déficit budgétaire, François Fillon veut supprimer 500 000 emplois publics et réduire massivement la fiscalité.
Si on veut retrouver notre indépendance et notre souveraineté, il faut diminuer la dépense publique. 500 000 postes de fonctionnaires, ça fait 8% des effectifs de l'ensemble des fonctions publiques. 500 000, c'est un chiffre qui est atteignable en négociant une augmentation du temps de travail.
Jean-Luc Mélenchon veut lui instaurer une politique économique très écologique.
Nous avons le devoir de nous fixer une règle générale qui nous oblige à changer nos manières de produire et de consommer. Cette règle, c'est ne plus prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer.
Quant au candidat socialiste Benoît Hamon, sa mesure phare, c'est le revenu universel.
Je créerai bien évidemment le revenu universel d'existence. Il permettra d'augmenter automatiquement le revenu des actifs, ouvriers, employés, indépendants, étudiants dont les revenus sont inférieurs à 2200 euros.
Alors on ne fera pas ici la recension complète des programmes parce qu'on n'aurait tout bonnement pas le temps, mais tous les candidats affirment faire du redressement de la France leur priorité absolue, avec près de 10% de la population active au chômage, une croissance qui plafonne autour de 1% et une dette qui pèse sur les finances publiques. La France fait parfois figure d'homme malade de l'Europe. Alors la situation est-elle critique? La France connaît-elle une crise passagère ou décroche-t-elle vraiment? Voilà les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Véronique Riche-Flores.
Bonjour Jean-Pierre.
Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste indépendante, mais vous publiez une lettre hebdomadaire qu'on peut trouver sur votre site internet. S'il ne fallait retenir qu'une seule caractéristique de l'économie française, laquelle citeriez-vous ?
Ses atouts démographiques et la diversité.
Avec nous dans ce studio, Jérôme Héricourt. Bonjour Jérôme Héricourt.
Bonjour Jean-Pierre.
Jérôme Héricourt, vous enseignez à l'Université de Lille, vous êtes conseiller scientifique au CEPI, un des principaux centres de recherche économique français. Même question qu'à Véronique Riche-Flores, la principale caractéristique de l'économie française selon vous ?
À 2 semaines de l'élection présidentielle, c'est une économie qui, alors qu'elle était en stagnation il y a 5 ans, est retournée, comme vous le disiez en introduction, à 1% de croissance. C'est pas beaucoup. Ça correspond à peu près à son potentiel de long terme maintenant. C'est mieux qu'il y a 5 ans. Moi, je pense que la question à poser, c'est comment on fait pour augmenter cette croissance à long terme.
Alors on verra comment on fait au cours de cette émission, au cours de laquelle nous aurons 3 rendez-vous avec nos correspondants, Frédéric Gara à Abidjan, Guilhem Deltaï à Jérusalem et Muriel Delcroix à Londres, ont été à la rencontre des milieux d'affaires dans ces 3 villes. Ils nous diront comment la France y est considérée. Véronique Riche-Flores, Jérôme Héricourt, est-ce que les professionnels de l'économie que vous êtes considèrent globalement que les candidats à l'élection présidentielle font un constat exact sur la situation économique de la France ? Est-ce que le portrait qu'ils dressent de la France aujourd'hui est conforme à la réalité ou est-ce qu'il y a des erreurs dans le diagnostic qui est porté sur l'économie française, Véronique Riche-Flores ?
Alors je pense que le constat malheureusement est à peu près exact, c'est-à-dire celui effectivement d'une économie française qui a eu beaucoup de mal à s'en sortir ces dernières années, d'une croissance plutôt inférieure à la moyenne de ses partenaires comparables, d'un chômage élevé, d'un taux de chômage élevé. Est-ce que les réponses apportées ont toujours ciblé les domaines dans lesquels on pourrait escompter que l'économie française retrouve le chemin de la croissance, là je suis beaucoup moins sûre. Je pense qu'il y a une focalisation extrême sur des sujets assez classiques qui sont révélateurs effectivement de cette espèce de pensée unique, de la lecture même qu'on fait de l'économie française par rapport au modèle ou supposé modèle allemand, que ceci dure depuis beaucoup trop longtemps, a conduit à sous-estimer et à ne pas mettre en valeur les richesses de l'économie française, en particulier sa diversité. C'est pour ça que je tenais à mettre dans les atouts de la France ou les caractéristiques cette diversité, pour essayer d'en faire un modèle industriel compétitif qui ne correspond absolument pas à la réalité profonde de l'économie française. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut regarder la France sous un œil différent et rechercher les solutions d'avenir, sans doute sur des terrains qui ont été assez peu exploités, si ce n'est peut-être effectivement sur l'aspect environnemental défendu exclusivement par Jean-Luc Mélenchon.
Jérôme Héricourt, on plaque un modèle sur une réalité qui ne correspond pas, comme vient de le dire Véronique Riche-Flores.
Alors, ouais, pour revenir à la question initiale, ouais. Hein, après je rebondirai sur ce que Madame Riche-Flores a dit. On a en gros 5 gros candidats qui posent des diagnostics sur l'économie française. Diagnostics qui sont assez hétérogènes, même si on pourrait dire d'une certaine manière le diagnostic posé par Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont assez proches. Et Benoît Hamon aussi s'intéresse de près à la question environnementale. Maintenant, c'est vrai. Et c'est pas tant dans le programme, par exemple, de François Fillon, mais ça se voit, on peut faire aussi cette lecture-là dans le programme d'Emmanuel Macron. Il y a une certaine fascination pour le modèle allemand, pour la réussite à l'exportation de l'Allemagne, et donc pour le maintien d'une économie florissante grâce à l'exportation. Et c'est vrai qu'il y a, là, je suis complètement d'accord avec Véronique Riche-Flores, c'est que on voit pas, en fait, le problème logique qu'il y a derrière. L'Allemagne a fait un choix de développement qu'on pourrait qualifier de mercantiliste. Qu'est-ce que c'est que le mercantilisme en économie? C'est un vieux courant de pensée, hein, qui dit en gros le commerce international, c'est un jeu à somme nulle. C'est je gagne, tu perds. Donc effectivement, l'Allemagne fait un énorme excédent commercial qui fascine beaucoup de nos hommes politiques. Finalement, il y a beaucoup de gens qui disent, il faut qu'on fasse comme l'Allemagne, il faut qu'on fasse des excédents. Mais le problème, c'est que si l'Allemagne fait des excédents, il faut que les gens fassent des déficits. Puisque c'est mathématique, hein. Vous ne pouvez pas, tout le monde ne peut pas exporter plus qu'il n'importe. Donc, ce qui est absolument évident, il me semble, c'est que, effectivement, l'économie française a des faiblesses. Certaines de ces faiblesses se révèlent dans la structure de son commerce extérieur, mais on ne peut en aucun cas vouloir corriger ces faiblesses uniquement en disant on va rétablir le solde de notre commerce extérieur. Il faut absolument qu'on revienne à un excédent du commerce extérieur.
Alors, vu de l'étranger, l'économie française ne va pas très fort, et peut-être justement parce qu'on lit l'économie française selon la grille allemande. Écoutez ce qu'on en pense à Londres, la capitale de la finance européenne, un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Muriel Delcroix à Londres.
Sclérosé, pessimiste, sans espoir, la France est tout simplement finie. Ce verdict sans appel, on le doit à Andy Street, ancien patron de la chaîne de grands magasins britanniques John Lewis. Un enterrement de première classe provocateur, certes, mais qui reflète bien l'opinion de nombre d'experts outre-Manche. Charles Grant est le directeur du CER, un centre de réflexion pro-européen. Et quand on lui demande ce qui ne va pas bien dans l'économie française, la liste est longue.
C'est difficile si vous êtes employeur d'embaucher, les coûts de travail sont énormes, il y a des impôts sur le travail, ça c'est un peu ridicule. Les sociétés françaises sont moins compétitives qu'il y a 10 ans, et le chômage en France c'est 10%, le chômage de jeunesse surtout en France c'est presque 25%.
Pour Charles Grant, il est désormais urgent de faire des réformes pour réaligner la France avec d'autres pays moteurs comme l'Allemagne.
Aujourd'hui, le salaire moyen en Allemagne est 17% plus grand que le salaire moyen en France. Mais il y a un décrochage entre la France et l'Allemagne. Un des problèmes, c'est que le secteur public, c'est énorme en France. Vous dépensez 53% de vos PNB par l'État. C'est le plus grand en Europe. Et le résultat n'est pas la meilleure performance économique en Europe.
D'autres sont pourtant moins sévères. Nous rencontrons Albin Servian dans le quartier de Shoreditch, à l'est de Londres, aussi connu sous le nom de ministère des start-up. Cet entrepreneur français s'est expatrié ici il y a 4 ans pour créer la plateforme de colocation Easy Roommate et coordonne aussi la communauté tech de Londres.
Tout ce qui se passe en France actuellement va dans le bon sens. Et on voit d'ailleurs dans tous les programmes des candidats pour la présidentielle 2017, ils disent tous la même chose s'agissant des programmes d'incitation à l'investissement dans les startups. Donc en gros, déplacer l'argent qui dort dans les assurances-vie vers de l'investissement dans les startups.
La France est d'ailleurs aujourd'hui une destination favorite pour les patrons des startups. Albin Servian.
C'est un mouvement de fond qui a démarré fin des années 90, début 2000, qui s'accélère parce que ces entrepreneurs réinvestissent dans l'écosystème français. Puis ensuite, il y a eu des réformes aussi structurelles, le crédit d'impôt recherche, le statut de jeunes entreprises innovantes, le statut d'auto-entrepreneur, qui fait finalement l'écosystème en France s'est bien amélioré. Et le fait qu'on crée plus de start-up en France qu'en Angleterre est un bon signe.
Vu de Londres, la volonté politique de réformer le système semble bel et bien présente en France, mais c'est convaincre l'opinion qui pourrait s'avérer le plus dur. Comme le notait tout récemment un historien britannique, les Français sont aussi prompts à faire la révolution qu'à s'enferrer dans l'immobilisme.
Reportage signé Muriel Delcroix à Londres. Alors il y a beaucoup de thèmes dans ce reportage. On va en égrener tout au long de l'émission, mais je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur le dernier mot que Muriel Delcroix prononçait, immobilisme, immobilisme économique. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui caractérise sur le moyen terme, dans le passé, les politiques économiques de la France, Véronique Richelorès?
Non, je ne crois pas, en tout cas pas les politiques économiques de la France. Je pense que l'immobilisme est une conséquence du manque d'ambition, du manque de confiance. Et quand on passe 20 ans à vous dire que vous n'êtes pas au niveau et que vous faites pas les choses, vous savez pas vous mettre là où il faudrait, notamment sur la ligne allemande, finalement ça a des conséquences énormes sur la prise de risque, sur l'ambition. On le voit très bien d'ailleurs, il y a un secteur sur lequel on a mis le paquet, où on était confiant, où tous les hommes politiques ont compris qu'il y avait là quelque chose de très fort à défendre. Ce sont la recherche et les start-up. On a fait les efforts et vous voyez qu'on est quand même aujourd'hui dans le palmarès, y compris mondial, en haut du peloton, avec un regain de confiance. Et malheureusement, ce regain de confiance, on l'a concentré exclusivement sur ce domaine-là, où c'est les moyens pour cette ambition, alors qu'il faudrait le déployer sur des tas de secteurs de la vie économique. Pensons par exemple à l'agriculture qu'on a complètement délaissée en France, alors qu'on est en France le pays européen qui avons le plus de diversité, une richesse agricole qui est fondamentale, enfin structurelle, qui est énorme, qu'on n'a pas jugé bon de déployer ou à qui on n'a pas donné les moyens pour avoir cette ambition. Et je pense qu'on souffre énormément de ce manque de confiance en nous. On peut redire la même chose sur le tourisme. La France, c'est un pays de tourisme. L'Allemagne, ce n'est pas un pays de touristes. L'Allemagne, c'est forcément, historiquement, une zone d'industrie, parce que quand on est enclavé comme l'Allemagne, comme l'est géographiquement l'Allemagne, si on n'a pas l'industrie, on disparaît de la surface de la terre, de la surface économique. Donc, structurellement, dans les gènes allemands, vous avez cette sensibilité à l'industrie. Ce qui n'a jamais été le cas de la France, même si dans l'histoire, ça a pu être...
Vous voulez dire, on peut laisser tomber l'industrie française, c'est sur autre chose qu'il faut développer.
Non, il faut jamais laisser tomber l'industrie, mais je pense que cette hyper-focalisation sur la compétition, la compétitivité de notre industrie, et surtout, après l'avoir laissé tomber comme on l'a laissé tomber pendant les 10 premières années de l'euro, où on a fait subir à l'industrie un euro hyper surévalué, où de fait on a laminé nos ressources industrielles, aujourd'hui il est temps de mettre nos efforts très très largement ailleurs, parce que c'est ailleurs qu'on pourra retrouver des sources de croissance et de la vigueur économique.
Jérôme Errico, vous partagez ce point de vue?
Ah oui, il y a beaucoup de choses dans ce que Mme Richelorès vient de dire. Je voudrais quand même dire, juste pour rebondir sur le reportage, le premier intervenant qui était anglais, c'est drôle parce que finalement on a commencé avec l'Allemagne. Le Royaume-Uni, c'est aussi un exemple de réussite économique, mais avec un modèle complètement opposé, c'est-à-dire une économie de services, énormément d'inégalités, peu ou pas de chômage apparent, mais cela, on le doit accroître à quoi ? À 900 000 contrats zéro heure, des hausses de salaire très très faibles, donc, et une économie qui est très faiblement productive. Il n'y a plus de gains de productivité au Royaume-Uni, les gains de productivité se ralentissent partout dans le monde développé, mais ils sont nuls. Au Royaume-Uni, depuis deux ans.
Et ça, c'est important d'avoir des gains de productivité.
Ah bah, les gains de productivité, ça détermine une bonne partie de votre croissance, hein, et de votre croissance à long terme. Donc, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, moi, je pense que faut pas laisser tomber l'industrie, mais il faut pas poser la question en ces termes-là. L'industrie française, effectivement, elle est prise en sandwich. Elle est prise en sandwich entre une concurrence par les prix fortes. Des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, mais dans une moindre mesure, où il y a eu une déflation salariale très violente ces dernières années, et une concurrence par l'Allemagne, par les produits allemands, par la qualité. Et en fait, on a, comme dit, il y a une formule de Patrick Artus que j'aime bien, il dit souvent, on exporte des produits espagnols au prix allemand. Donc, et ça vient du
Patrick
fait...
Patrick Artus, qui est un économiste, l'économiste en chef de la banque Natixis.
Absolument.
Un des grands économistes français.
Il me semble que là, cette contradiction, cette prise en sandwich de l'économie française, elle témoigne d'un choix de politique économique qui n'a pas été fait, suffisamment. Soit, effectivement, on assume qu'on fait du milieu de gamme, et dans ce cas-là, ça va vouloir dire une très très forte modération salariale. Soit, et moi, c'est la direction qui est à ma faveur, on voit... on prend ce qu'il y a de bien dans l'Allemagne, dans le modèle allemand, et ce qu'ils font différemment de nous, c'est qu'ils font plus de recherche et développement. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut effectivement investir davantage dans les start-up, investir davantage dans la recherche. Le taux de R&D en France en pourcentage du PIB.
Recherche et développement, R&D.
Absolument. Le taux de R&D en France, le taux de recherche et développement en part du PIB, c'est 2,25%. En Allemagne, c'est presque 3%. Taux de 2,2%, oui. On avait le même taux en 92. En Allemagne, on était tous les deux, l'Allemagne et la France, à 2,2% du PIB. Donc là, s'il y a quelque chose à prendre du modèle allemand, je pense, et ça dit quelque chose sur notre politique industrielle, c'est un investissement dans des secteurs industriels d'avenir, comme la santé, l'énergie, l'aéronautique, où on a besoin de R&D.
Véronique Riche-Flores, il faut prendre ça du modèle allemand ?
Oui, certainement. Certainement qu'il faut prendre ça, c'est-à-dire des efforts de recherche. Notons qu'on a. Alors, ça nous renvoie directement à une problématique absolument cruciale de l'économie française, notamment par rapport à l'allemande, qui a souvent été mise en avant, c'est le fait qu'on a beaucoup de difficultés en France. Le tissu des entreprises de moyenne taille est très faible. Alors, on est assez vigoureux en termes de petites entreprises.
Une entreprise de moyenne taille, vous pouvez la définir, c'est combien de salariés, quel chiffre d'affaires ?
Alors, on va passer à au-dessus de 500 salariés. Si vous voulez, c'est le statut de PME, où les PME vivent bien en France, elles sont assez nombreuses. Il y a une dynamique qui est, peut-être pas ces dernières années, effectivement, mais traditionnellement assez forte. Par contre, la grande faiblesse, effectivement, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer, en règle générale, du statut de PME au statut de moyenne entreprise. Et sans doute pour des raisons assez complexes, hein, qu'on pourra pas simplifier ici au risque de dire de grosses bêtises, hein, mais peut-être effectivement un sujet crucial de problématique de financement de l'industrie qui permettrait effectivement de se développer et de passer ces caps essentiels. Et ces caps essentiels sont ceux justement où les entreprises peuvent déployer beaucoup plus de moyens. Par exemple, à leur recherche. La grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est la faiblesse de la recherche du secteur privé, en l'occurrence.
Alors, on va continuer ce débat peut-être sur autre chose que sur la comparaison entre le modèle allemand et le modèle français dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, un flash d'actualité. On se retrouve tout de suite après.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. D'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, consacrée à la situation économique de la France à la veille d'une élection présidentielle atypique. Deux invités dans cette émission, l'économiste Véronique Riche-Laurès et Jérôme Héricourt, conseiller scientifique au CEPI et professeur d'économie à l'Université de Lille. Au cours de la première partie de cette émission, on a beaucoup parlé de l'Allemagne, du modèle allemand, du fait que la France ne devrait pas trop chercher à copier ce modèle allemand, c'est en particulier ce que vous nous avez dit, Véronique Riche-Laurès. La France, elle recule sur le plan industriel. Pourtant, tous nos politiques disent que le pays reste la cinquième puissance mondiale, que c'est une grande puissance. Jérôme Héricourt, est-ce qu'on nous trompe quand on nous dit que la France reste la cinquième puissance mondiale ?
Ça dépend vraiment de la manière dont on compte, mais on est cinquième, sixième puissance économique mondiale. Parce que, on a de moins en moins d'industrie, mais on a de plus en plus de services. Donc 80% du PIB en France, c'est des services. Alors on a peut-être des problèmes de compétitivité sur les prix de ces services, ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être plus tard, mais on est toujours la cinquième puissance économique mondiale, ça c'est incontestable.
Quels sont les principaux atouts de l'économie française, Véronique Riche-Laurès ?
Écoutez, moi je pense qu'il y a déjà un énorme atout, c'est sa démographie. La France est un pays relativement jeune, d'ailleurs le plus jeune derrière le Royaume-Uni dans l'espace de l'UE 28. Ce qui pose question une fois que le Royaume-Uni n'est plus dans cette UE 28, parce que on n'est pas certain effectivement qu'une Europe
28,
très rapide,
c'est l'Union européenne.
L'Union européenne à 28, à 28. Voilà, donc à 27 aujourd'hui, on n'est pas certain effectivement que ce contexte démographique a une influence très importante sur l'orientation politique générale. Et quand ces pays vieillissent très rapidement, beaucoup plus rapidement que le cas de la France, ça pose question. Mais je pense qu'on a un atout démographique auquel on n'attribue pas suffisamment d'importance. Deuxième atout essentiel, c'est la diversité. La France, c'est l'extrémité du continent européen. On a des côtes, on a donc cette mer dont on n'entend pas souvent parler, est une richesse considérable qui devrait être, me semble-t-il, mieux exploitée sur le plan économique. On a une agriculture, je le disais tout à l'heure, qui là aussi est caractérisée par une diversité exceptionnelle. On a donc du tourisme qui est un gisement d'activité.
Pourtant, le tourisme, par exemple, c'est une activité à très faible plus à très faible spécialisation, à très faible qualification professionnelle.
Oui, à très faible peut-être valeur ajoutée. Est-ce pour autant qu'il faille le laisser de côté ou s'en désintéresser ? Je pense qu'on a surtout aujourd'hui, dans un monde où les populations se meuvent beaucoup plus rapidement, on a là un potentiel de développement qu'on a un peu souvent laissé de côté, sans doute parce que avec ce sentiment que c'était pas très valorisant. Je pense qu'on a tort. Hein. Et puis enfin, on a quand même encore, me semble-t-il, même si notre niveau relatif est en baisse très rapide, un niveau d'éducation, des connaissances en mathématiques notamment, qui sont assez largement reconnues. Donc et un système public, des services publics qui se retrouvent dans un niveau de fonctionnement des infrastructures notamment, absolument déterminant pour la productivité précisément, qui sont de véritables atouts, où là la France se démarque clairement du reste de la, en tout cas des pays européens.
Jérôme Héricourt, les principaux atouts de l'économie française sont les mêmes pour vous que pour Véronique Riche-Laurès ?
C'est vrai qu'on aime beaucoup se faire mal, dire qu'on baisse dans les classements internationaux. On aime bien se dévaloriser en France, hein, et ça vient aussi d'un manque de confiance en nous qui s'est développé ces dernières années. Mais c'est vrai qu'on a un système d'éducation qui fonctionne encore correctement, avec un accès plutôt égalitaire, même s'il y aurait bien des choses à dire certainement, parce qu'on sous-finance, parce que le système d'éducation, notamment dans l'enseignement supérieur, sous-financement chronique depuis bien des années maintenant, même s'il y a eu des tentatives de correction faites depuis disons 2007. Mais on a un système d'enseignement supérieur, un accès à l'éducation qui pourrait être vraiment amélioré, mais qui est en termes relatifs bien meilleur que ce qui se fait dans d'autres pays. Les infrastructures également, je crois qu'il faut pas les oublier. On parle souvent de l'Allemagne et succès allemand, mais l'état des infrastructures en Allemagne est vraiment très problématique. Ça vient d'un sous-investissement chronique, et ça, on n'a pas ce problème en France. Et la croissance, les entreprises, elles vivent pas hors sol, les entreprises. Elles ont besoin d'une main-d'œuvre formée. Ça, c'est un service qui est fourni largement par la puissance publique en France. Elles ont besoin d'infrastructures pour pouvoir travailler. Là encore, ce sont des structures, ce sont des choses fournies par la puissance publique en France. Donc ça, ce sont des gros atouts qu'on pourrait bien sûr, dans lesquels on pourrait encore investir, mais je pense que ça peut être déterminant pour l'avenir.
Il y a des atouts, et puis il y a aussi cette mauvaise presse, entre guillemets, qu'a l'économie française, en particulier en France. On nous dit beaucoup, par exemple, que la France ne cesse de perdre du terrain, qu'elle a perdu beaucoup de terrain dans ses échanges économiques avec l'Afrique. On a pu le mesurer avec des chiffres, puisqu'on nous dit que les entreprises hexagonales ont perdu plus de la moitié de leur part de marché au cours des 15-20 dernières années. Revenez nous voir, dit-on à Abidjan, où l'on suit de très près la campagne électorale. Revenez nous voir, dit-on aux entreprises françaises. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Frédéric Gara à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, on s'intéresse naturellement à la vie politique française qui passionne presque autant que la vie politique ivoirienne. Mais on est attentif aussi et surtout aux options que prendra le prochain chef de l'État français en matière d'économie, de politique de coopération, d'options protectionnistes ou pas. Stanislas Zézé, président du cabinet de notation Bloomfield.
C'est vrai que la majorité des opérateurs commencent à se poser un peu de questions quand on voit le débat politique et quand on voit les préparations aux élections. Et dans quelle direction est en train d'aller la France, hein? C'est difficile à dire aujourd'hui parce que il me semble que c'est peut-être une des élections les plus incertaines où on ne sait pas vraiment où la France est en train de partir. Et ça pose énormément de problèmes, hein? Un problème même psychologique, hein? Les opérateurs en Côte d'Ivoire voient la France comme l'allié naturel vers qui on peut regarder pour le modèle. Et je ne crois pas qu'ils sont en train de nous donner un modèle extraordinaire en ce moment. Et donc du coup, forcément, on commence à se poser des questions sur la légitimité de sa position même de partenaire favori.
Les programmes des 11 candidats, la politique prise par la France dans les 5 prochaines années peut avoir un impact ou non sur les échanges commerciaux, sur la politique monétaire et le franc CFA par exemple. Aurélien Mali, analyste senior pour l'agence de notation Moody's.
Il y a tout d'abord effectivement la garantie du système financier par le système du franc CFA, donc la convertibilité garantie par le Trésor français, ce qui, il n'empêche, est extrêmement important. Un pays qui a une guerre civile comme l'a eu la Côte d'Ivoire ou d'autres, en théorie, sans le franc CFA, il y aurait eu des fuites de capitaux et après la stabilité, il y aurait eu plus d'épargne, plus de comptes bancaires. Là, tout a redémarré parce que le système est tellement solide que ça a permis de passer une épreuve telle que l'a connue la Côte d'Ivoire sans trop de dégâts sur le système financier et la capacité à octroyer des crédits, etc., etc.
Après avoir un temps cédé sa place au Maroc, la France est redevenue en Côte d'Ivoire en 2016 le principal partenaire économique du pays avec 672 milliards de francs CFA d'investissement, 1 milliard d'euros qui vont être consacrés à des projets privés français en Côte d'Ivoire, ce dont se félicite Souleymane Diarra Souba, le ministre ivoirien du Commerce et des PME.
Je pense qu'on devra rester dans la même dynamique, c'est-à-dire amener en fait les entreprises françaises en fait à investir plus en Côte d'Ivoire, amener également les entreprises françaises, les PME, à s'exporter à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, à augmenter le niveau des IDE qui sont dirigés vers la Côte d'Ivoire, mais à mettre l'accent en fait sur le partenariat avec les entreprises ivoiriennes, aussi bien le partenariat commercial, mais plus le partenariat capitalistique, et à développer la co-traitance, notamment avec à la clé le transfert des technologies, et que le secteur privé français continue de prendre sa part dans ce développement des relations entre les deux pays.
Un reportage signé Frédéric Gara, Abidjan, Véronique Riche-Lorès. Est-ce que c'est un bon baromètre de la place de la France dans la mondialisation que la place de l'Afrique dans les échanges de la France ?
Je pense que c'est assez révélateur en réalité de certaines faiblesses effectivement historiques du mode de fonctionnement de l'économie française. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le milieu des années 80. À l'époque, on critiquait la France en disant la France est sur des vieux marchés, sur l'orientation de son commerce extérieur. C'est essentiellement l'Afrique et des pays effectivement sur lesquels le socle de croissance était très faible. Il faut absolument réorienter l'ensemble vers des zones plus dynamiques, en particulier l'Asie. Finalement, ça a pris beaucoup plus de temps à se faire que chez nos partenaires. Et on a délaissé, on est sorti d'Afrique et des relations très fortes qui étaient encore très fortes à l'époque. Et puis, quand l'Afrique s'est réveillée à partir du milieu des années 90 et plus encore dans les années 2000, on n'a même pas vu le train passer. On l'a laissé passer, mais je crois qu'on l'a, les industriels français ou les grandes entreprises françaises étaient très réticentes parce qu'elles ont eu sans doute un passé qui aussi a beaucoup d'effets ou de culpabilité, mais parce qu'elles ont eu du mal à s'en sortir. On leur a dit tellement de temps, c'est plus le marché d'avenir, il faut en sortir, que le mouvement de retour a été très lent. Et qu'effectivement, la France est absente, un peu moins aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans, mais très très en retrait de ce qu'elle pourrait faire avec l'Afrique, avec l'ensemble des pays méditerranéens d'ailleurs. Et c'est une vraie question, effectivement, parce que d'autres vont beaucoup plus vite pour s'accaparer dans des conditions qu'on pourrait considérer comme souvent assez problématiques pour le long terme et pour l'Afrique, un potentiel de croissance. Donc là, on peut regretter effectivement la frilosité quelque part française.
Jérôme Héricourt, est-ce que les entrepreneurs français, les gouvernements français, au cours des 20-30 dernières années, ont eu une bonne lecture de l'évolution internationale économique du monde?
Bon, ce qui est certain, c'est vrai que pour revenir à la question de base, hein, la part des exportations françaises dans le total des exportations mondiales est passée de 4,5% en 2000 à moins de 3% aujourd'hui. Donc on a reculé. Alors, il y a une part de ce recul qui était inévitable parce qu'elle est liée à la montée des grands émergents. D'accord? Donc à l'arrivée dans le commerce mondial de pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, de pays qui s'industrialisent et se mettent à exporter, à faire des choses mieux que nous et à meilleur prix. Donc ça, c'est plutôt normal. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a raté sans doute. On n'a pas vu venir effectivement l'éveil de l'Afrique. Tant et si bien que c'est plutôt la Chine qui fait des efforts de présence en Afrique maintenant. Si on veut rattraper notre retard, ça renvoie à la question finalement qui est récurrente hein, pour moi et depuis le début de l'émission. On veut être présent comment? On veut être présent pour y faire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on y exporte? Quel type d'investissement direct étranger? Quel type d'IDE on y fait? Quel type de partenariat on fait avec les entreprises locales?
Et vous pensez que la France n'a pas de planification, de réflexion à long terme?
Je trouve qu'il y a très peu de réflexion autour de la politique industrielle. Ça, mais ça fait des années. Moi, il me semble que ça fait des années que c'est comme ça. Il y a une vingtaine d'années, j'entendais déjà des hommes politiques se plaindre de notre absence de réflexion sur la politique industrielle. Voilà.
Écoutez, la semaine dernière, on tournait autour de cette question avec le grand invité de l'économie, d'Ecodiceco d'ailleurs, en la personne de Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Et voilà le diagnostic que lui faisait de la situation des maux de l'économie française.
Nous, entrepreneurs, c'est quoi notre travail? C'est d'innover, c'est de créer, c'est de chercher, c'est de faire des composants ou des produits ou des services qui répondent à des marchés, c'est la satisfaction du client, c'est de s'automatiser, c'est de se digitaliser, c'est de motiver nos hommes et nos femmes, c'est de les former tout le long de la vie. Vous vous rendez compte les responsabilités qu'on a pour un chef d'entreprise? Pour qu'on fasse tout ça, on a besoin de marge. Et tant que nos politiques n'ont toujours pas compris que pour faire l'exportation, la globalisation, le pouvoir d'achat des Français, la prendre des apprentis, il nous faut 4 choses. Il nous faut des marges qui soient correctes et donc une fiscalité qui soit compétitive, ce qui n'est pas le cas en France, première réforme. Il nous faut de la flexisécurité à la française pour éviter que la plupart de nos patrons aient peur d'embaucher en France, encore malheureusement. Il nous faut une simplification de la bureaucratie, troisième bloc de réforme. L'administration française est très très lourde, très compliquée. Et puis quatrième bloc, il faut retravailler sur les talents, les compétences, l'enseignement, l'apprentissage. Vous voyez, c'est très simple. Et ça, ces 4 blocs de réforme, ils ont été faits depuis 30 ou 40 ans par tous les dragons asiatiques, par la Chine, par la Corée du Sud, par Singapour, par le Canada, par l'Angleterre, par tous ceux qui sont dans le classement mondial des économies les plus performantes, en disant la chose suivante: pour faire de la croissance et de l'emploi, il n'y a que l'entreprise, la plus belle institution au monde.
Pierre Gattaz, la semaine dernière, dans Ecodiceco d'ailleurs, sur RFI, nous parlons de la situation économique de la France avec 2 invités, Jérôme Héricourt et Véronique Riche-Lorès. Est-ce que c'est cela, la grande faille de l'économie française, de Jérôme Héricourt, ce que décrivait Pierre Gattaz à l'instant? On accable les entreprises de cotisations, de charges, de normes? On ne les laisse pas libres de se développer?
Il y a eu des mesures fiscales qui ont été prises quand même depuis quelques années. Pierre Gattaz, il parle de marge. Effectivement, toute la logique de la politique économique qui a été menée depuis 2014, c'est de restaurer les marges des entreprises. Et le taux de marge, il augmente. Il était en dessous de 30% en 2014. D'après l'INSEE, il se rapprochera de 32% mi-2017. Or, pour l'instant, alors effectivement, ces choses-là, ça met du temps à se diffuser, mais néanmoins, on voit l'investissement augmenter, mais pas suffisamment, et une part de cet investissement va vers des choses qui nous aident pas à être plus productifs, c'est de l'investissement en immobilier des entreprises. On reste en retard sur l'Allemagne ou l'Italie, sur l'investissement en équipement et en robots. Ça c'est bon pour la productivité. De manière générale, ce qu'on constate suite au CICE et suite au pacte de responsabilité, c'est une augmentation quand même assez importante.
Alors, c'est ICE, pacte de responsabilité, sont les mesures mises en place par François Hollande pour aider les entreprises,
restaurer les marges des entreprises. Et ce qu'on voit pour l'instant, c'est que le supplément de marge qui a été dégagé sert surtout à rémunérer davantage les actionnaires, un peu plus les salariés aussi, mais pas vraiment à stimuler l'investissement. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut encore baisser les charges. Ça résoudra pas le fait que les entreprises, il y a une frilosité. Alors il y a certainement un problème d'incitation, il y a certainement un problème d'environnement institutionnel, mais il y a une frilosité des entreprises à faire de l'investissement productif.
Au-delà de ça, Véronique Richelorès, c'est l'éternel débat entre des politiques de l'offre et des politiques de la demande en France.
Oui, il y a un petit peu de ça, bien évidemment. Je suis pas sûre qu'on puisse néanmoins donner les réponses aux problèmes qu'on rencontre uniquement en adressant la problématique sous cet angle-là. On a fait beaucoup pour les politiques de l'offre ces dernières années.
L'offre, ça veut dire permettre aux entreprises de mettre plus de produits sur le marché.
Précisément, hein, c'est ce que disait Pierre Gattaz, donc débrider quelque part l'esprit d'entreprise, donner la capacité d'investir, d'avoir plus de flexibilité, de marge, etc. Au-delà de ça, il y a probablement, y compris une partie, j'ai envie de la qualifier de culturelle, même si c'est certainement pas un élément intangible, culturel, figé dans le marbre. Moi, j'ai toujours été marquée par un reportage qu'il y a eu il y a quelques années sur Antenne 2, où on comparait deux entreprises sur le même domaine, la métallurgie, des plaques, entre d'un côté et de l'autre du Rhin, entre Allemagne et France. France, les coûts de production étaient les mêmes, les salaires étaient les mêmes, à l'écart de marge de charges sociales près. Et puis on a interrogé l'Allemand qui disait, bon, quels sont vos projets? Ah ben moi, je vais investir parce que je vais développer mon commerce, je vais exporter là avec une stratégie très forte. On interroge du côté de la France, quelle est votre stratégie? Oh ben écoutez, nous on va pas investir, nos carnets de commandes sont pleins, on vit très bien comme ça. Et ça, je pense que c'est révélateur d'une réalité que j'ai du mal à qualifier ou à expliquer. Il y a cet esprit conquérant ou pas, de cette tendance à se satisfaire de quelque chose qui fonctionne sans le pousser au-delà de ses limites et de nos frontières. Est-ce que c'est un cadre réglementaire? Est-ce qu'on revient à des problématiques de financement aussi et à des problématiques d'éducation qui probablement jouent peut-être à la marge, mais dans cet état d'esprit, ou est-ce qu'on peut se satisfaire d'une réponse qui est celle qu'on entend le plus? C'est une question de coût et d'écrasement des entreprises. Moi, je suis un peu agacée par cette rhétorique des chefs d'entreprise qui ont quand même eu beaucoup de soutien ces dernières années, dont on n'a pas vu forcément les effets économiques en termes de prise de risque. Une entreprise, c'est aussi fait pour prendre des risques quand elle investit. Là, on observe, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, une très grande frilosité. Mais voilà. Et encore une fois, moi, j'ai trop peur qu'on focalise le débat sur c'est une histoire de coûts, les salaires sont trop élevés, on n'a pas assez de flexibilité, en oubliant pourquoi on a des niveaux de salaire qui sont ceux qu'on a en France, en particulier en oubliant un sujet absolument fondamental, qui est le coût du logement. Quand on nous compare à l'Allemagne, sans prendre en considération cet écart de coût du logement, plus de deux fois supérieur en France à ce qu'il est en Allemagne, je pense qu'on n'est pas crédible à adresser des sujets de compétitivité salariale.
Alors vous parlez de nouveau de l'Allemagne. Vous rappeliez tout à l'heure que dans le secteur des hautes technologies, la France faisait tout pour être dans le peloton de tête. Le créateur d'une entreprise israélienne est venu passer plusieurs mois en France pour chercher des marchés, des partenariats, des soutiens, pour finalement se tourner vers les Allemands. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Guilhem Deltaï à Jérusalem.
C'est dans le centre de la bouillonnante Tel Aviv que Tridom est installé, dans une tour qui regroupe bon nombre d'entreprises du secteur des nouvelles technologies. La start-up partage un laboratoire avec une autre jeune pousse. Yaron Schwartz est l'un des fondateurs de Tridom.
We are doing automation and robotics for the construction industry.
Nous faisons de l'automatisation des robots pour l'industrie du bâtiment. Donc on travaille sur ça. C'est deux bras automatiques, Universal Robotic 10. On y ajoute différents appareils et différents programmes pour faire des tâches variées. Je ne peux pas en dire plus. C'est encore secret.
Undercover.
Tridom a près de 3 ans d'existence désormais et est toujours en phase de recherche. L'an dernier, lauréat du concours French Tech Ticket, Yaron Schwartz a passé quelques mois en France, un pays qui compte quelques grands noms du secteur de la construction, Bouygues, Vinci, Lafarge-Holcim, des groupes que le jeune entrepreneur voit comme de potentiels partenaires. La preuve par l'exemple avec Vinci Construction.
They have just recently invested in a French startup called Extri.
Ils ont récemment investi une start-up française qui s'appelle Xtree, qui fait de l'impression 3D de béton. Une start-up formidable avec une équipe très brillante, des gens très intelligents. Les multinationales sont depuis quelques années de plus en plus actives dans la recherche, mais investissent aussi maintenant.
In research and now also in investments.
Pendant son séjour en France, Yaron Schwartz a eu des contacts avec des entreprises locales, mais nos attentes divergeaient, précise-t-il. Les unes cherchaient une technologie déjà existante quand lui voulait des partenaires pour mener la recherche. Depuis, c'est plus vers l'Allemagne que Tridom s'est tourné. Mais nous sommes aussi en négociation avec quelques entreprises françaises, indique Yaron Schwartz.
Un reportage signé Guilhem Delteil à Tel Aviv et Jérusalem. Donc, Véronique Riche-Florest, ce qu'il décrit, c'est aussi peut-être ce que vous disiez, un manque de sens dans l'anticipation des entreprises française.
Oui, attention à pas trop généraliser, ouais. Parce que je pense que à la fois dans les secteurs, les domaines, les stratégies ou l'état d'esprit est très différent. Moi, ce qui me marque au début de ce reportage, c'est qu'on est dans un secteur qui certes est celui des nouvelles technologies, mais des nouvelles technologies orientées vers la robotique, l'industrie du bâtiment. Et là encore, c'est pas tout à fait le domaine de spécialisation française. Peut-être que cette entreprise aurait beaucoup plus trouvé à s'épanouir si elle avait été sur des nouvelles technologies de l'information ou autre. Effectivement, on sait que les Allemands, notamment, sont beaucoup plus avancés que les Français pour tout ce qui est robotique et robotique pour l'industrie. Et ça vient pas de rien, ça vient du fait que l'industrie en Allemagne est une réalité beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en France, hein, que les besoins des entreprises du secteur manufacturier sont beaucoup plus importants et qu'ils ont donc un socle très favorable à l'épanouissement ou au développement de ce type de technologie dans la robotique. Est-ce qu'en France, on pourrait, bien sûr qu'on pourrait aller dans cette voie. Est-ce qu'on a la motivation? Certainement un petit peu moins qu'en Allemagne parce que c'est pas le même cadre. C'est dommageable parce qu'effectivement la robotisation va se développer et il faudrait peut-être penser à s'atteler sur un créneau comme celui-là. Mais je crois qu'on arrive à expliquer ces écarts.
Jérôme Héricourt, on est en permanence, on l'a vu au cours de cette émission, renvoyé vers le modèle allemand, vers le concurrent allemand, vers le voisin allemand qui a beaucoup moins de chômeurs dans sa population active que nous en France, quasiment 3 fois moins.
Oui, absolument.
Pourquoi ?
Il y a eu la conjonction de plusieurs facteurs qu'on peut dater, on peut faire remonter ça au début du XXIe siècle avec l'arrivée de l'euro. Donc l'arrivée de l'euro en elle-même, ça a baissé brutalement les barrières au commerce au sein de la zone euro, d'accord ? Ça a enlevé des coûts à sa facilité de commerce entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, tous les pays membres de la zone euro. Donc ça a créé des forces qu'on appelle des forces centripètes en économie géographique, ça a poussé les forces d'agglomération, ça a poussé à ce que l'industrie s'agglomère en Allemagne qui a plutôt une position centrale. Ensuite, l'Allemagne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait déjà un positionnement en gamme très haut de gamme, précisément, et elle a rajouté sur cet avantage de compétitivité, hors coût, sur cet avantage de compétitivité qualité, elle a rajouté un avantage de compétitivité coût avec les réformes ARPS, qui ont en fait...
Sous le gouvernement Schröder,
qui ont imposé une modération salariale terrible, notamment dans les secteurs des services aux entreprises, donc dans tous les services qui sont rendus aux entreprises, qui sont des intrants de ce qui rentre dans le produit final. Ceci, combiné à une sous-traitance tout à fait opportuniste avec les pays de l'Est, a permis de rajouter un avantage prix tout à fait considérable aux produits allemands. Donc vous avez des produits qui combinent compétitivité qualité et compétitivité coût, donc ça vous explique l'excédent allemand qui est de 8 ou 9% du PIB, c'est plus que la Chine, c'est énorme. Et donc effectivement, vous avez une croissance en Allemagne qui est plus forte que la moyenne de la zone euro depuis plusieurs années déjà, donc forcément comme la croissance est plus forte, ceci combiné à un marché du travail qui est quand même très flexible, ça vous met un taux de chômage plus bas. Là encore, ça se fait aussi au prix d'une montée des inégalités et de beaucoup de gens qui sont déclarés comme n'étant pas chômeurs alors qu'ils travaillent quelques heures par semaine pour un revenu très faible.
Véronique Richelorès, est-ce que la lutte contre le chômage doit être l'alpha et l'oméga des politiques économiques en France?
Alors, moi je suis un petit peu un peu désolée qu'en France on ne parle que de chômage et pas d'emploi. Ça peut coûter cher, hein. On voit que effectivement notre président il laisse sa chemise à se donner des objectifs de taux de chômage sans regarder l'origine de ce qui est en amont, c'est-à-dire les créations d'emplois. Je pense qu'on dit beaucoup de bêtises ou qu'on sous-estime une réalité. La réalité, c'est d'abord que les créations d'emplois en Allemagne n'ont pas été aussi spectaculaires que ça. Loin de là. Et quand vous comparez sur longue période, les créations d'emplois en indice, pour mieux comparer effectivement la dynamique, ont été structurellement bien plus élevées en France qu'elles ne l'ont été en Allemagne. Alors, ces dernières années, c'est un peu moins le cas, parce que l'industrie allemande a créé quand même plus d'emplois que la France n'en a détruit. Et puis, vous avez une dynamique de la population active, plus 16% en France depuis le début des années 2000, hein, à peu près zéro en Allemagne. Donc, l'Allemagne a eu beaucoup moins de mal, parce qu'elle vieillit et que la croissance démographique est beaucoup plus ralentie qu'en France, hein, a baissé avec à peu près autant d'emplois, si ce n'est au cours des toutes dernières années, autant d'emplois qu'en France, a abaissé son taux de chômage.
Donc moins de gens à faire entrer sur le marché du travail, oui. Beaucoup moins. C'est le mot de la fin. Merci Véronique Richelorès, merci Jérôme Héricourt. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.